Allez, on démarre tout de suite avec la dette. Ouais, j'ai cherché une musique et en pensant à la dette, j'ai pensé au Titanic. Vous avez compris, le monde sombre sous la dette. En tête, les États-Unis, évidemment, vous avez vu ce chiffre, on en a parlé la semaine dernière, de 40 000 milliards. Mais nous ne sommes pas mal non plus avec notre dette qui s'envole mois après mois. Alors, quand les taux d'intérêt étaient à zéro ou négatifs, c'était sympa. Puis on avait de dette, puis on gagnait d'argent parce que les taux d'intérêt étaient négatifs. Sauf qu'il s'est passé un petit truc, c'est que les taux d'intérêt, on va en parler très largement dans la deuxième partie de l'émission en parlant des marchés, ont tout simplement explosé, puisqu'on arrive quasiment à 5% sur le taux de référence, le taux 10 ans américain. Revenons à la base, j'aime bien faire ça avec vous Anna, l'endettement massif. Au niveau mondial, dans toutes les économies développées, ça a quel impact sur l'économie ?
Tout simplement, en fait, ça réduit la marge de manœuvre d'un État pour faire de la dépense essentielle. Par exemple, on peut penser aux dépenses dans l'éducation, dans la santé, dans tout ce qui est protection sociale. Puisqu'on le voit même en France, la question se pose sur la réallocation de la dépense. Et aussi, ça réduit la marge de manœuvre future si jamais on rentre dans un cycle défavorable, par exemple une récession. Puisqu'aujourd'hui, on le voit, en fait, c'est une dette qui était déjà là auparavant, avant 2019, mais qui s'est amplifiée avec la crise du Covid, avec le début de la guerre en Ukraine, et avec toutes les aides qu'on a pu donner, surtout aux agents privés, puisqu'il ne faut quand même pas oublier, les ménages et les entreprises dans le monde, et surtout en Europe, ont quand même été bien soutenus pendant ces deux chocs. Ça n'a pas été le cas sur les deux dernières années, parce qu'on a commencé à resserrer les vis, et on a eu aussi la hausse des taux, donc ce qui a un petit peu changé un peu les équilibres, mais si vous voulez, en économie, on regarde les balances en fait, des soldes, des capacités de financement ou d'emprunt par agent économique. Donc, il y a les ménages, il y a les entreprises non financières, les entreprises financières et l'État. Et en fait, si vous voulez, les courbes, c'est quand même assez parlant, parce qu'on accuse souvent l'État, mais en fait, in fine, il faut regarder où est l'argent, puisque l'argent est quelque part. Et donc, les ménages, ce sont ceux qui ont le plus aujourd'hui en excédent, donc 157 milliards sur un an en France, alors que l'État, c'est celui qui est le plus déficitaire. Les entreprises non financières ont aussi encaissé, bien sûr, des subventions, des aides, mais ça s'est arrêté depuis à peu près 2-3 trimestres où ils sont déficitaires.
D'accord. Donc, ça avait là, vous parlez en France. Hein.
En France. Mais c'est un peu le cas partout. Hein. D'ailleurs, même aux États-Unis, c'est la même chose.
J'ai une question. On va reparler de la France avec Emmanuel et tout à l'heure, on va parler de la croissance française. Mais aux États-Unis, ça marche bien, il y a de la croissance. Pourquoi la dette augmente ? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On comprend que la dette augmente. J'ai compris ce que vous avez dit, le Covid, les difficultés, des plans d'aide. Mais là, ça tourne. Pourquoi la dette augmente ?
Tout simplement parce que la dette, c'est quelque chose qui augmente avec ton déficit public. Donc, si tu es un État qui dépense plus que ce qu'il puisse encaisser, forcément, si ton déficit augmente chaque année, en fait, aux États-Unis, on est à 7,5% du PIB.
Malgré une croissance économique qui fonctionne relativement bien.
La croissance économique n'est pas assez forte.
La croissance économique, elle vient en partie du creusement du déficit, puisqu'en fait, les États-Unis ont quand même fait l'équivalent d'une relance budgétaire massive. Donc c'est pour ça que ça a un impact.
Oui, mais aujourd'hui, c'est l'IA aussi. Effectivement, oui, mais aujourd'hui, les moteurs de croissance quand même aux États-Unis sont un peu différents. Aujourd'hui, il faut choisir entre financer l'IA ou financer la dette américaine. Hein,
au niveau mondial, cet endettement, ça nous plombe ?
Alors,
Emmanuel.
Alors, globalement, bon, il y a aucun travail académique qui montre qu'il y a un niveau d'endettement, puisqu'on parle de l'endettement public, public qui est une frontière infranchissable pour la croissance. Il y avait eu des vagues travaux dans les années 90, avec Rogoff notamment et Reinhardt, mais bon, leurs travaux ont été un peu discrédités, donc globalement, on n'a pas de choses là-dessus. La deuxième chose qu'il faut regarder, et là, on peut peut-être un peu plus s'inquiéter, c'est quel est le rendement de cet endettement.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'au regard de cet endettement,
c'est ça.
Combien vous mettez de nouveaux PIB créés. Et là, effectivement, on a des choses qui sont un peu différentes selon les régions. C'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple,
parce que c'est de l'investissement.
Une part de cet endettement investi qui est quand même assez spectaculaire. L'inquiétude pour un pays comme la France, c'est que si vous regardez depuis 30 ans, c'est très simple. L'augmentation des déficits, l'augmentation de la dette, pas un euro n'est allé dans des dépenses d'avenir. Pas un euro n'est allé à l'éducation.
Donc
pas,
vous dites, pas un euro supplémentaire. On a juste financé la consommation.
On a juste financé notre système social.
Mmh. Voilà. Et ça, c'est le problème de l'euro.
Et donc, ça, c'est le problème aussi de l'Europe en général. Et puis, ce qu'il faut regarder aussi sur le, pour s'inquiéter de la dette ou pas, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt apparent, c'est-à-dire parce que c'est bien beau de s'inquiéter de sur la dette qu'on émet aujourd'hui, mais ce qui compte c'est quel est le taux moyen de notre dette.
Et il montre.
Et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de voir que par exemple en 1996 on était à plus de 6%, c'est-à-dire que ça coûtait cher de s'endetter. On est tombé en 2020 à 1,5%. Et ça, c'était donc complètement indolore. Et là, on remonte progressivement. Alors, on est maintenant à plus de 2%. Donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller et qui est pour le coup assez préoccupant. Moi, c'est ça que je regarde.
Sébastien, ça vous inspire quoi ?
Ça m'inspire quoi ? Ça m'inspire qu'en fait, déjà, il y a effectivement le problème que j'ai avec le débat actuel en France sur la dette, c'est qu'on cherche des moyens de la combler. Mais une fois encore, on réfléchit beaucoup à la façon dont on dépense l'argent. Il y a un déficit budgétaire de 5% par an qui s'accumule. Hein, c'est pour ça que la dette augmente. Mais on se pose assez peu, comme l'a dit Emmanuel, sur le rendement de cette dépense.
On commence à en parler.
On commence à en parler, mais ça fait un petit moment que ça dure. Et c'est tout le sujet aussi pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent par rapport au fait de pouvoir supprimer. Cette espèce de foutaise de dire qu'on va supprimer de la dette. Il faut pas oublier qu'il y a le stock de dette et le flux. Le flux, c'est 350 milliards par an.
De dettes nouvelles
qu'il faut refinancer. Donc c'est du supplémentaire et du refinancement. Et bizarrement, c'est les mêmes personnes qui détiennent le stock que ceux qui pourraient accessoirement nous financer demain. C'est-à-dire que si vous dites « Tiens, j'ai une mauvaise nouvelle, tu détenais 100 dettes, ben elles valent plus que 50 », eh ben, ils ne vont pas s'endetter. Tu ne vas pas t'endetter à 4%, tu vas t'endetter
C'est-à-dire qu'on va peut-être régler, entre guillemets, un peu le problème de stock, mais on ne réglera pas le problème de flux.
C'est là où c'est comme pour les retraites, où on avait un problème de mathématiques. C'est-à-dire que quand tu dois refinancer 350 milliards par an, que ton taux, si tu coupes la dette, eh ben, il monte de 10%. Donc ta dette, plutôt t'endetter à 4, tu t'endettes à 14. 10% par an sur 350 milliards, c'est-à-dire que la première année, ce choix te coûte 35 milliards d'intérêts en plus, 70 milliards la deuxième année, parce que c'est cumulatif. Donc en fait, ce que tu as économisé te revient en boomerang fois 10.
Léa, un mot ?
Ce que disait Emmanuel est important, je pense, parce qu'en fait, notre...
Oui. Bon. Une fois.
Merci.
Toujours à sa place, Emmanuel. Non, ce qui est important, c'est l'horizon, en fait, dans la remontée des taux. Et on va être, en fait, sur une vraie problématique plutôt en 2030. Donc là, dans l'immédiat, ça n'a pas un effet très conséquent. D'ailleurs, on voit les agences de notation qui ont maintenu les ratings. Oui. Mais l'effet cumulatif, il va être vu à plein s'il n'y a pas de correction d'ici plutôt 3-4 ans.
Enfin, on le voit déjà, on va en parler tout de suite, parce que c'est un des points d'Emmanuel sur la croissance française. On voit déjà que ça a un impact sur la croissance française.
Hein. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cet équilibre budgétaire qui est le fond du problème, on est plus dans une recherche en France malheureusement de trouver des nouvelles recettes, je pense à l'épargne salariale, cette annonce un peu brève qui a été faite, plutôt qu'à effectivement trouver une sorte de productivité.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où le monde a changé, c'est que sur la dette souveraine, donc la dette des États, il y a aujourd'hui une vraie concurrence sur où est-ce qu'on met l'argent. Aux États-Unis, par exemple, les hyperscalers, c'est 30% d'émissions de dette investment grade.
D'accord. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emprunteurs avec des gens qui ont des qualités de signature qui sont parfois meilleures que celles des États.
Je termine là-dessus parce que je suis bavard. Dans les pays émergents, les entreprises s'endettent à des taux moins élevés que l'État. Ouais. En France, c'est le cas. Nexans a émis à 4,25.
On est devenu un
juste le vrai indicateur qu'il faut surveiller. Hein, rappelez-vous, c'est toujours cet arbitrage entre la croissance nominale, qui est donc en gros croissance potentielle plus inflation, et les niveaux des taux d'intérêt. Et on dit toujours que quand les taux d'intérêt deviennent supérieurs à ce taux de croissance nominale, on bascule de monde, on change de monde,
et on y
puisque
est.
Une unité de PIB ne suffit plus finalement à enrayer la hausse de l'endettement.
Et on y est.
Alors on n'y est pas encore, parce que si on regarde le
bon, on n'y est pas, on n'est pas loin.
Moi je pense qu'il faut regarder. Alors si vous regardez le taux d'emprunt instantané aujourd'hui, on est à 4 plus de 4%, alors que notre croissance nominale c'est à peu près autour de 2,5-3. Si on regarde ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le taux apparent, on n'y est pas encore. Okay. Mais l'horizon de 2030 qui a été évoqué, on y sera bien avant.